Quand un croyant reçoit-il le Saint-Esprit? Dans les Actes des apôtres, nous trouvons l'accomplissement des promesses. Pendant que le Seigneur Jésus vivait sur la terre, Dieu avait montré qu'il était avec nous, Emmanuel, Matthieu 1, verset 23, et la foi voit dans la mort et la résurrection de Christ que Dieu est pour nous, Romains 8, verset 31-32.
Matthieu 1, verset 23, « Voici, la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on appellera son nom Emmanuel, ce qui, interprété, est Dieu avec nous. » Romains 8, verset 31 et 32, « Que dirons-nous donc à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Celui-même qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous fera-t-il pas don aussi librement de toutes choses avec lui. »
Mais en acte 2, nous trouvons Dieu en nous. Cela était impossible tant que le sang précieux de Christ n'avait pas été versé. Là où il est fait aspersion du sang, le Saint-Esprit peut venir et peut habiter. Exode 29, versets 41 à 46.
« Et tu offriras le second agneau entre les deux soirs. Tu l'offriras avec la même offrande de gâteau qu'au matin. Et la même libation en odeur agréable, un sacrifice par feu à l'Éternel. Ce sera l'holocauste continuel en vos générations, à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel, où je me rencontrerai avec vous pour y parler avec toi. Et je me rencontrerai là avec les fils d'Israël, et la tente sera sanctifiée par ma gloire. Et je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Et je sanctifierai Aaron et ses fils, afin qu'ils exercent la sacrificature devant moi. Et j'habiterai au milieu des fils d'Israël, et je leur serai Dieu. Et ils sauront que moi, l'Éternel, je suis leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte, pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. » Lévitique 14, versets 14 à 18. Et le sacrificateur prendra du sang du sacrifice pour le délit, et le sacrificateur le mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui doit être purifié, et sur le pouce de sa main droite, et sur le gros orteil de son pied droit. Et le sacrificateur prendra du log d'huile, et en versera dans la paume de sa main gauche à lui, le sacrificateur. Et le sacrificateur trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans sa paume gauche, et fera aspersion de l'huile avec son doigt, sept fois devant l'Éternel. Et du reste de l'huile qui sera dans sa paume, le sacrificateur en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui doit être purifié, et sur le pouce de sa main droite, et sur le gros orteil de son pied droit, sur le sang du sacrifice pour le délit. Et le reste de l'huile qui sera dans la paume du sacrificateur, il le mettra sur la tête de celui qui doit être purifié, et le sacrificateur fera propitiation pour lui devant l'Éternel. »
Avant la croix, le Saint-Esprit n'avait habité que dans un seul homme, le Seigneur Jésus. Ce n'est que dans cet homme sans tache, parfait, qu'il pouvait demeurer sans aspersion préalable de sang. Mais maintenant, le sacrifice avait été offert et le sang de la réconciliation versé. Le Seigneur Jésus avait dit à ses disciples qu'il serait baptisé du Saint-Esprit dans peu de jours. Acte 1, verset 5.
Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, vous serez baptisés de l'Esprit-Saint dans peu de jours.
Cela s'accomplit aussi 10 jours après l'ascension du Seigneur. Acte 2 nous donne une description détaillée de cet événement. De même que la naissance du Seigneur avait été manifestée par des signes visibles, ainsi aussi des signes particuliers apparurent lorsque Dieu le Saint-Esprit descendit sur cette terre pour y habiter. Dieu donna une double manifestation extérieure de cet événement unique. La maison tout entière fut remplie. En outre, il apparut des langues divisées, comme de feu, sur chacun individuellement, et ils commencèrent à parler d'autres langues. Nous retrouvons constamment cette double vérité.
Il demeure avec vous et il sera en vous. Jean 14, verset 17.
Il a baptisé tous les croyants en un seul corps. 1 Corinthiens 12, verset 13. Et ce corps, l'assemblée vue comme maison de Dieu, est appelé en 1 Corinthiens 3,16 le temple de Dieu, dans lequel le Saint-Esprit habite.
1 Corinthiens 12, verset 13, « Car aussi nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit homme libre, et nous avons tous été abreuvés pour l'unité d'un seul esprit. » 1 Corinthiens 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?»
Le lieu où les disciples priaient fut ébranlé, Actes chapitre 4. Et en Actes chapitre 5, il est dit qu'Ananias et Saphira avaient menti à Dieu le Saint-Esprit en disant un mensonge à l'assemblée. Dieu était descendu dans la personne du Saint-Esprit et habitait dans l'assemblée, et il en est encore ainsi aujourd'hui. Nous reviendrons là-dessus un peu plus loin. Mais en outre, nous trouvons le témoignage sur chacun individuellement des langues divisées comme de feu. C'était des langues, allusion au fait de parler, mais divisées. Le témoignage s'en va vers chaque peuple sous les cieux, et les langues le confirment. Il est très important de rechercher quand et comment les hommes peuvent recevoir le Saint-Esprit. Les idées des hommes sont partagées à ce sujet, et pourtant l'Écriture nous dit très clairement
« Ayant cru ». Vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse, Éphésiens 1, verset 13.
Et les exemples dans les Actes des apôtres ne manquent pas non plus de clarté. Chapitre 2, verset 38, l'apôtre Pierre dit
« Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, en rémission des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. »
Ici, il n'est pas question de foi comme en Acte 16, verset 31 et Éphésiens 1.
Et ils dirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. »
N'était-elle alors pas nécessaire ou la conversion n'était-elle pas nécessaire? Certes, toutes deux le sont. L'homme pécheur doit se convertir et il doit croire à la personne et à l'œuvre du Seigneur Jésus. Toutefois, Dieu voit les cœurs et c'est pourquoi Paul parle de foi aux geôliers et Pierre de repentance aux Juifs. Les Juifs, fiers et orgueilleux, devaient se séparer du peuple dont ils étaient fiers et se déclaraient publiquement pour Jésus, en se faisant baptiser pour ce nom méprisé. Eux qui avaient rejeté et crucifié Jésus devaient se repentir et confesser leurs péchés et leurs fautes. Ainsi, ils recevraient le pardon et deviendraient participants de l'Esprit-Saint. Celui-ci, comme nous le voyons, vient de lui-même après la repentance et la foi au Seigneur Jésus. Ce n'est pas le privilège de quelques-uns, mais c'est valable pour tous. En Acte 8, nous trouvons un ordre tout différent. Les Samaritains avaient reçu l'Évangile et avaient été baptisés au nom du Seigneur Jésus, mais aucun n'avait reçu le Saint-Esprit. Cela n'était-il pas en contradiction absolue avec Éphésiens 1? Une raison importante explique cette différence. Comme on le sait, il y avait entre les Juifs et les Samaritains une grande amertume, avant tout aussi à cause du lieu de l'adoration. Jean 4, verset 20.
Nos pères ont adoré sur cette montagne, si, et vous, vous dites qu'à Jérusalem est le lieu où il faut adorer.
Si les croyants de Samarie avaient reçu le Saint-Esprit immédiatement après la prédication de Philippe, c'est-à-dire de la même manière que les Juifs croyants, n'y aurait-il pas eu un grand danger de jalousie entre les croyants de ces deux endroits? L'unité n'aurait-elle pas été d'emblée menacée? En outre, le Seigneur avait donné à Pierre les clés du royaume des cieux. C'est pourquoi ils ne reçurent le Saint-Esprit qu'après que Pierre et Jean furent revenus, eurent prié pour eux et leur eurent imposé les mains en signe d'unité. En Acte 10, nous trouvons encore un autre ordre. Corneille et les siens appartiennent aux nations, mais sans aucun doute ils se sont repentis et sont nés de nouveau. Ils ont entendu l'Évangile, verset 36, mais ils ne savaient pas si cela était aussi pour eux.
Acte 10, verset 36, « Vous connaissez la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël, annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ. Lui est Seigneur de tous. »
Pierre, enseigné à cet égard par une révélation spéciale, ouvre la porte aux nations, verset 35, et après qu'ils eurent entendu et cru la parole,
que par son nom quiconque croit en lui reçoit la rémission des péchés,
Le Saint-Esprit tomba sur eux avec les mêmes signes extérieurs qu'à Jérusalem.
Acte 10, verset 35. Mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable.
Ici donc rien ne se passa avant, ni prière, ni imposition des mains, ni même le baptême. Nous trouvons un quatrième cas en acte 19. Nous voyons là un certain nombre de croyants qui avaient été enseignés d'une manière incomplète. Ils avaient entendu l'évangile d'un sauveur qui allait venir, mais ils ne savaient pas que l'œuvre de la réconciliation avait été accomplie et que le sang avait été répandu. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas croire à l'œuvre accomplie par Christ, ni recevoir le Saint-Esprit sur la base de cette œuvre. Ils ne savaient même pas que la promesse de l'Ancien Testament, dont aussi leur maître, Jean le Baptiseur, avait si souvent parlé, était accomplie. Mais après que Paul les eut enseignés qu'ils eurent reçu le baptême chrétien, le Saint-Esprit vint sur eux. Paul, l'apôtre des nations, impose les mains à ces Juifs croyants et ils reçoivent le Saint-Esprit, comme cela avait été le cas pour les Samaritains après l'imposition des mains de Pierre et de Jean. Dieu montre que l'autorité de l'apôtre des nations n'était pas moindre que celle des onze. Il résulte de tous ces passages que celui qui se repent et croit au Seigneur Jésus reçoit le Saint-Esprit. Cela s'applique tant aux Juifs qu'aux non-Juifs. Certes, il y a une différence, car les Juifs devaient d'abord être baptisés du baptême chrétien, tandis que nous ne trouvons nulle part cela pour les croyants d'entre les nations. Mais le principe général demeure. Celui qui croit au Seigneur Jésus et à son œuvre accomplie reçoit le Saint-Esprit. En ce qui nous concerne, nous qui ne sommes pas juifs, nous n'avons besoin d'aucune imposition des mains, ni d'aucune autorité apostolique.
Ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse. Éphésiens 1, verset 13.
Certes, il peut s'écouler quelque temps entre la conversion et la nouvelle naissance d'une part, et la réception du Saint-Esprit d'autre part, car ce sont des choses tout à fait différentes. Il se peut qu'un profond exercice se produise dans une âme avant qu'elle entre dans la jouissance d'une entière liberté, comme pour Paul. Il est même possible que pour n'avoir pas compris le plein évangile, soit parce qu'elle a entendu un évangile incomplet, soit pour d'autres motifs, l'âme convertie et née de nouveau ne croit pas pleinement l'évangile de votre salut, mais s'occupe d'elle-même, peinant et luttant contre le péché et contre elle-même, etc., et qu'ainsi elle ne reçoive pas le Saint-Esprit. Mais la volonté de Dieu est que l'âme convertie croit le plein évangile et reçoive ainsi immédiatement le Saint-Esprit et entre dans l'entière jouissance de tout ce qui nous est préparé par l'œuvre de Christ.